Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc nous y sommes avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Cette émission, justement, lève le voile sur le monde de l'injustice. Et chaque semaine, nous rencontrons des témoins qui viennent sur ce plateau confirmer cette réalité amère. La justice n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Et le Québec, malheureusement, n'échappe pas à la règle, mais plutôt souvent l'appareil du système judiciaire québécois fait plus de dégâts que de bien. Vous allez voir aussi dans le témoignage d'aujourd'hui à quel point l'injustice peut anéantir les individus et que les recours appropriés demeurent souvent un combat inégal. Alors l'individu s'accroche à l'espoir et l'appareil du système continuera à faire des ravages. Et finalement, l'espoir ne peut être que le réveil des citoyens. Tous ensemble, solidaires et unis, la société civile pourra-t-elle, par son engagement, son implication, son souci, faire une différence? Si vous êtes victime ou témoin d'une injustice ou d'un abus de pouvoir, chère auditrice, cher auditeur, nous vous invitons de participer à cette émission. Votre dénonciation est le signe de votre engagement, de votre préoccupation. Alors rappelez-nous au 514-273-4302. Ou bien nous écrire à infomage-québec.com. Donc je répète, appelez-nous au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Au micro avec vous ce matin, Jezitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui s'occupe, soi-disant, de faire la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Avec moi ce matin, mes collègues Roland Cazès et Edgar Robin, tous les deux vont m'accompagner le long de cette émission. Edgar va en particulier nous informer de cette nouvelle fusillade où une nouvelle victime venait de tomber hier matin, donc le 16 février, sous les balles d'un agent de la SPVM. Il nous parlera aussi s'il y a des développements dans le dossier de M. Farshad Mohammadi, cet itinérant, abattu à son tour le 6 janvier de cette année, dans la station du métro Bonaventure, sous les balles, toujours de la SPVM. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre ce matin le témoignage d'une mère troublée par la séparation de son enfant. Elle vient nous raconter l'enfer de l'injustice ici au Québec. Donc nous aurons par l'occasion d'entendre aussi le témoignage de la grand-mère de l'enfant qui a tout abandonné pour s'attacher justement, ou sacrifier si vous voulez aussi, son temps, sa vie à la défense de son petit enfant. Croyez-moi, cette dame est un vrai mur d'acier qui défie l'injustice de notre système judiciaire. L'histoire est troublante, saisissante, et le réel la rend davantage incompréhensible. Vous allez voir que, à l'origine de la souffrance de ces deux femmes, il y a quelque part cet enfant déchiré, donc brisé par la séparation de sa mère, et dans son refus, il va s'enfermer sur lui-même en signe de révolte. Mais malheureusement, graduellement, à 8 ans, il perd définitivement l'usage de la parole. C'est vraiment triste. Chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous revenons avec le reste de l'émission.
Sur les problèmes de société, coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, territoire, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la vue.
Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours à l'émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de nos sociétés contemporaines. Et comme prévu, donc, on va céder la parole à mon collègue Edgar Robin pour nous parler de cette dernière fusillade où un individu donc a perdu la vie hier sous les balles d'un agent de la SPVM. Bonjour, Edgar.
Bonjour.
Ça va bien. Oui. Est-ce que pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, effectivement, comme vous savez, on a eu une réunion assez importante chez Maj hier le matin.
Oui.
Après ça, je suis allé manger, puis j'ai vérifié mon courriel en même temps. Puis j'ai noté que j'avais un courriel du mouvement Justice pour Fachad qui disait qu'effectivement, il y a une autre fusillade.
Une fusillade.
Quelqu'un a été tué le matin vers 7h45.
Vous êtes déplacé sur le lieu, j'imagine?
Oui, j'étais là, c'était déjà presque une heure quand j'ai vu ça. Je me suis allé là vers peut-être 3h l'après-midi. J'ai pris quelques photos et vidéos.
Oui. Vous rencontrez des témoins sur le lieu?
Pas vraiment, non. C'était assez tranquille. Il y avait pas mal de policiers, mais il n'y avait aucun témoin évident à parler.
Parce que dans les grands médias...
Dans les médias...
Dans les médias, il n'y a pas grand-chose, par exemple. Ils n'ont pas dit grand-chose.
Il y a pas mal. Je pense que j'ai devant moi le 24 heures métro. J'ai lu le reportage de TVA.
Oui.
J'ai parlé avec un policier, mais il ne savait pas grand-chose. Mais effectivement...
Qu'est-ce qui s'est passé,
réellement? Dans les médias, il parle d'un homme suicidaire qui avait un couteau.
Dans la main. Toujours la même histoire, oui.
C'est ça. La police était appelée.
Oui.
Puis, effectivement, dans le 24 heures, il dit que ça, c'est un témoin, M. Abdel Ghani, qui parle. Il dit les 4 ou 5 policiers ont monté l'escalier vite, a raconté le témoin Alain Abdel Ghani. Ils ont pris le couloir et tout d'un coup, ils se sont mis à reculer très rapidement. C'est là que j'ai vu le gars qui avançait vers eux avec son couteau. Alors, ça, c'est un témoin qui dit
que... Donc, il y avait pratiquement une agression, quoi, de la part de...
C'est ça. Selon M. Abdelghani, les agents ont sommé plusieurs fois le suspect de lâcher son arme. Tous les policiers lui criaient « Arrête, arrête ». Le gars était rendu vraiment près du policier lorsqu'il a fait feu. Il n'avait pas le choix de tirer. Ça, c'est le témoin qui dit ça. Une chose que je trouvais intéressante, c'est un autre reportage, il dit que les policiers avaient alors fait feu sur l'arme à plusieurs reprises.
Mm-hmm.
Mais un autre reportage dit qu'il avait juste une balle dans le torse. Alors, je ne sais pas
alors,
à quel point... Mais de toute façon, il est mort. Il a été tué.
Mais il n'y a pas de système de caméra, il n'y a rien du tout. On ne peut pas vérifier l'incident. Roland, oui?
Mais il y a quelque chose que je veux vous dire, c'est qu'il avait déjà été arrêté, parce qu'il avait une arme déjà.
Oui.
Il a déjà eu une arme. Une arme à feu.
Une arme prohibée.
Maintenant, est-ce que c'est une raison pour tuer un homme? Parce qu'il a un couteau dans les mains, là. J'espère que le gars ne puche pas ses patates. Parce que les policiers vont un peu trop vite. Est-ce qu'on tue un lion quand il s'est évadé du zoo ou on l'endort?
Ouais,
excusez-moi, c'est un être humain. Les animaux, on les traite mieux que les humains. Le gars a peut-être des problèmes, c'est évident. Il a sûrement des problèmes, il en a plein le dos de la vie, il est écœuré. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire à la télévision que le gars voulait se suicider. C'est une façon de se suicider sous les balles des policiers. Alors, on va arrêter de tirer sur le monde pour un oui, pour un non.
Mais Edgar, est-ce que ce gars-là, il avait des problèmes de santé mentale ou...
Je ne sais pas, c'est pas clair. Mais de toute façon... Je pense que on a eu maintenant trois fusillades avec la police. Ils ont tiré sur quelqu'un avec un couteau, même peut-être plus avant. Je pense que c'est comme Roland a dit, il faut trouver des moyens plus humaines
Non, mais c'est sûr, Edgar, si vous permettez, ce n'est pas le premier, on le sait, ça ne sera pas le dernier, on le sait. Le mois passé, il y avait une personne qui a perdu la vie, c'était Farshad. Ce mois-là, on a ce monsieur-là, d'ailleurs. Et le mois prochain, ou la semaine prochaine, on ne sait pas s'il y aura encore un autre, vous comprenez? Alors, est-ce que chaque fois quelqu'un qui va agir d'une manière qui n'est pas... adéquate et on va tirer sur lui.
Il y a les cas de personnes qui en ont ras-le-bol. Oui. Ça peut arriver. Oui. C'est humain. Des fois, on en a ras-le-bol d'être achalé, d'être persécuté, d'être harcelé, puis de pas avoir les services qu'on mérite, de pas avoir les hôpitaux ouverts, les médecins de famille. Écoutez,
c'est toujours le même problème.
Voilà.
Mais de toute façon, je pense qu'on va essayer de suivre ce dossier-là. Je pense qu'Edgar, il va essayer d'aller sur le lieu aussi.
Effectivement, je suis sur une liste d'activistes d'Occupy Montréal. Puis apparemment, il y a quelqu'un là-dedans qui dit qu'il était une très bonne amie de ce monsieur-là.
Voilà, c'est ça. Alors, on
essaie de parler avec lui.
Oui.
Aussi, il faut dire qu'il y avait deux femmes sur les lieux. Ça a l'air qu'il était dans un des appartements.
Oui.
Puis il est entré dans le couloir. Mais il y avait des témoins. Il y avait monsieur
Abdelghani.
Puis il y avait les deux femmes aussi.
Mais Edgar, ça sera peut-être intéressant pour que le public puisse savoir un petit peu.
Il y avait la propriétaire aussi de l'immeuble.
Qu'est-ce qui s'est passé? De peut-être de revenir et de la semaine prochaine, si vous pouvez nous apporter un petit peu plus d'éclairage sur ce décès.
Il y a des cas qui sont restés non résolus. On va prendre le cas de Limoges. Oui. Celui qui a été tué parce qu'il y en a un avec son couteau ouvert. Accidentel.
Accidentellement.
Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Comment ça s'est réglé? Moi, en tant que citoyen, je voudrais savoir.
Maintenant, je reviens toujours à Edgar. Monsieur Robert, à propos de Farshad, est-ce qu'il y a un suivi dans le dossier?
Oui, j'ai appelé M. Martin Bolduc, le directeur de salon funéraire à Bleu Ciel, jeudi le 9 février, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec...
Et vous apprenez comme quoi le corps était...
C'est ça. Il m'a informé que le soir avant, ça veut dire mercredi le 8 février, que le corps de Farshad a été répatrié en Iran. Alors, ça veut dire que je pense que ça a parti de Canada vers 10h30 le soir.
Oui.
Probablement, c'est arrivé en Iran le jeudi. C'est M. Issa Salim qui s'occupait de ça dès le début. Ça veut dire qu'il a premièrement essayé de lui enterrer ici au Canada, mais quand la famille était trouvée, ils ont changé
Peut-être je poserai la question maintenant.
Ils ont fait une collecte.
Non, c'est ça que je voulais poser la question. Je sais que c'est des citoyens qui ont ramassé un peu d'argent. C'est une somme qui est environ 7200 pour rapatrier justement le corps.
C'est
et comment pouvez-vous voir que le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement, n'a pas pu au moins débourser cette somme-là pour que le corps...
Chose intéressante, c'est que dans un des reportages, ils ont dit que l'ambassade iranienne a promis 2000$. Alors, les Iraniennes...
C'est l'autorité iranienne.
Ça, c'est politique.
Ils ont participé, Et le gouvernement québécois n'a pas pu mettre un sou sur ça. Écoutez, sur ça, on va faire juste une pause musicale et on revient avec notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc, avant de céder la parole à ces deux maires qui ont jugé important de livrer leur témoignage dans cette tribune, pour justement vous rappeler à quel point l'injustice ici au Québec pèse lourd et que les individus sont dépassés par cette réalité. Donc, je vous rappelle aussi, chers auditeurs, chères auditrices, que cette tragédie de la mort des filles Shafia, qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre ici au Québec et ailleurs dans le monde, avait justement remis en question le travail de la DPJ et plus précisément leur part de négligence. Donc, et au lieu de reconnaître le fait d'avoir commis énormément de gaffes dans la vie des citoyens, puisque dans la plupart du temps, les démarches de la DPJ sont destructives. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais la grande majorité des personnes qui ont vécu dans les filets de cette institution. Écoutez, nous n'avons pas dit non plus que la DPJ n'a pas fait des bonnes choses, mais selon les plaintes que nous avons reçues, selon les rencontres que nous avons eues avec les parents impliqués dans des telles situations, la DPJ, selon ce parcours, a fait malheureusement plus de tort que du bien. Alors j'avais dit que après la triste tragédie de la mort des Shafia, donc la DPJ était forcée de sortir de son mutisme et d'avouer finalement qu'elle avait manqué à ses devoirs. Et encore devant la longueur, ou plutôt aussi la lourdeur de la tragédie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la perte de plusieurs vies innocentes. Donc la DPJ va annoncer cette fois et publiquement qu'elle avait un important examen de conscience à faire, mais en réalité, ils savent très bien que la situation échappe à leur contrôle et que dans la plupart du temps, leurs interventions font plus de tort que du bien. Nous avons dans le studio ce matin avec nous deux femmes, une mère, une grand-mère, qui ont accepté de venir vous rencontrer et de vous raconter leur histoire et surtout l'histoire d'un enfant qui est séparé de sa mère et qui la voit rarement depuis les dernières années. Les conséquences de la séparation pèsent lourd sur l'enfant puisque ce dernier, qui est âgé aujourd'hui de 8 ans, vient de perdre l'usage de la parole. Et si vous me le permettez, laissez-moi d'abord vous le dire, vous lire aussi un court extrait d'un témoignage fait par d'une éducatrice qui raconte ses observations concernant l'enfant en question. Et je vous cite. Donc, elle dit, l'éducatrice, ce qui suit. Le bon début d'année, mais environ à la mi-septembre, il a commencé à mordre, griffer, moment d'euphorie. Donc après le dîner, au moment de la sieste, X ne dort pas. Il a un moment avec une personne seule à l'extérieur de la classe où il peut avoir une certaine capacité d'apprendre. Moment plus calme, capable de faire son travail. Au retour en classe, plus le moment de la fin de la journée, X, c'est l'enfant, peut se sentir insécurisé. Donc il appelle beaucoup maman, parfois va chercher le sac pour aller chez maman, le serre dans ses bras et se berce avec le sac en nommant toujours maman. Fin de citation. Vous allez voir que malgré tous les rapports des spécialistes et des enseignantes et des éducatrices qui recommandent fortement le retour de l'enfant à sa mère, un juge de la Chambre de la jeunesse rejette le tout et s'accroche aveuglément aux recommandations de la DPJ, un statu quo qui dure depuis très longtemps, autrement dit, des juges de son genre qui n'arrivent pas à trancher rapidement et qui attendent une éternité font plus de dommages que de bien. Bonjour mesdames, et merci d'avoir été et d'accepter notre invitation aujourd'hui. Je vois la maman qui est en train de verser des larmes. Je la comprends. Donc j'aimerais bien juste vous poser, madame, la première question. Vous m'avez dit, moi je vous cache pas que ça m'a touché énormément cette situation, cette histoire, mais vous m'avez dit que si je savais que tout ça va m'arriver ici au Québec, je ne mettrais pas les pieds ici. Voulez-vous nous dire pourquoi, madame?
Ben, c'est sûr, moi je suis venue faire des études ici au départ au Québec, je suis là depuis 20 ans. Je pensais que
vous êtes une vraie Québécoise.
Oui, ça fait
une vraie citoyenne canadienne.
Je suis de formation ingénieure de base.
Vous êtes ingénieure de formation.
Oui, formation. J'ai fait aussi une maîtrise à l'école polytechnique et j'ai fait aussi un bac en informatique à l'Université de Montréal. Ouais. Et je suis venue au Québec ici en pensant que c'est un pays des droits de l'homme et des droits des femmes.
Vous avez tout fait, vous rêvez, j'imagine, comme tout le monde, de venir y vivre ici pour... Vas-y, continue.
Et puis là, je suis en état de choc. J'aurais jamais pensé que des choses pareilles puissent exister au monde, dans un pays qui se dit des droits de l'homme et des droits des enfants.
Oui.
C'est ça, donc...
Et je sais que vous êtes mariée ici, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, je sais que je vais laisser après la parole à votre mère, qui est la grand-mère de l'enfant, qui va nous raconter un petit peu les détails. Mais je sais que à un moment donné, après ce mariage, malheureusement, il y avait une séparation avec
mon ex-conjoint. Oui.
Et à ce moment-là, vous avez eu un enfant qui était âgé d'un an.
On s'est séparés avec mon ex-conjoint. Mon petit garçon avait 16 mois.
Oui.
Et j'ai toujours été sa principale figure d'attachement. Il était très attaché à moi et à sa grand-maman qui vit avec moi, qui est ici au Canada.
Je sais peut-être, je passerai la parole à madame, à la grand-mère. Et d'abord, ils sont toujours... la première question que je poserai, madame, vous savez très bien que la DPJ, elle est là pour protéger l'enfant.
Oui.
Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine.
Oui, dans les faits...
Et dans une telle séparation, je me demande comment... Il y a eu une intervention de la DPJ. Pouvez-vous nous dire comment? Peut-être pouvez-vous nous relancer un peu l'histoire?
Oui, dans les faits, en tant qu'institution, je respecte cette institution dont la mission, malheureusement, a été a basculé.
Oui.
En ce qui nous concerne, c'est un cas très, très, très spécial. On n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Il y a un pédopsychiatre qui suit le dossier et qui nous a dit, en 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un cas pareil.
Oui.
Ceci, malheureusement, je dois le dire, c'est une affaire qui a dérapé au début. C'est une affaire assez nébuleuse. Il s'agit tout simplement, il n'y a jamais eu de compromission de ce petit enfant.
Oui.
Il s'agit tout simplement d'une affaire de garde d'enfant.
Je comprends, mais madame, je comprends que la mère, j'ai devant moi la mère, je l'ai rencontrée, c'est la deuxième fois, j'ai parlé avec elle longuement, c'est une mère qui a une formation d'ingénieur, c'est une mère qui est responsable. Je me demande comment la mère peut à un moment donné perdre la garde de son enfant. Moi, ça me dépasse. Alors que l'enfant a besoin de l'attention de sa mère, il devra vivre avec sa mère. Qu'est-ce qui a fait basculer les choses que c'est le père qui peut garder l'enfant?
Oui. Dans ce cas-là, justement, la mère a obtenu la garde par la Cour supérieure. Mais le père, insatisfait, il est parti par le DPJ pour aller chercher l'enfant, tout simplement. Je peux expliquer un peu grosso modo le cursus de ce petit enfant.
Oui.
Ce petit enfant avait un petit retard de langage. Il était suivi...
À l'âge de quel âge vous avez découvert ça, madame?
On a découvert à l'âge de 27 mois.
Oui.
La mère s'est rapprochée du docteur Julien, qui est très connu, pour la stimulation de langage. Et tous les services étaient mis en place, justement, et l'enfant faisait des progrès considérables.
Oui.
Docteur Julien était même venu témoigner à la Cour supérieure, à l'audience de garde. Et il a témoigné de la bonne évolution de l'enfant. Et comme il y avait un petit conflit d'intérêts dans le dossier, docteur Julien a été désigné pour suivre l'enfant.
Oui.
Quand le père, il a une sœur qui est pédiatre, et de par son implication qui était non autorisée dans le dossier, la décision du juge était que docteur Julien suive le dossier. Bien évidemment, docteur Julien, il a mis tous les services en place.
Oui.
Aussitôt qu'on est passé à la cour, il n'a pas obtenu la garde, il est allé faire...
Constituer
d'abord un dossier à la clinique TED de Montreal Children pour l'autisme, alors que l'autisme n'a jamais été soupçonné chez l'enfant. L'enfant recevait des services, il commençait à parler, à communiquer, un enfant magnifique qui n'a jamais eu de retard dans rien du tout. Et là, docteur Julien a mis des services en orthophonie et en ergothérapie que la mère a mis immédiatement en place, défrayée dans leur totalité par la mère. Et à ce moment-là, le père, il est allé dédoubler docteur Julien pour constituer un dossier à...
Oui. Mais dans toute cette période-là, l'enfant était avec sa mère. Hein?
Il était avec sa mère.
Okay.
Donc, docteur Julien, quand il voyait que le père, il craignait pour que les services de l'enfant soient mis qu'il soit compromis, il a avisé la maman, il lui a dit « Voilà, maintenant, moi, je dois saisir le DPJ pour... Je crains que les services soient compromis.
Oui. »
Et le signalement a été fait pour le père et non pour la mère. Donc, le 18 mai, l'enfant a fait l'objet de deux signalements de la même journée.
Oui.
Le DPJ est rentré dans le dossier un mois plus tard. Ça suppose que le cas n'était pas urgent.
C'est le père qui a demandé l'intervention de DPJ.
Oui, deuxième signalement, c'était le père de la même journée. Oui. Quand ils sont rentrés, le DPJ, je peux vous lire, là, c'est très cool.
Attends, peut-être on va juste faire une petite annonce publicitaire. Il y a une annonce publicitaire, on revient après l'annonce publicitaire avec la fin de témoignage.
Bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine favori. Comme à chaque semaine, Émilie nous parlera de sport et Mathieu de science.
Et toi Steve, tu vas encore nous parler de culturel et de social.
Exactement Mathieu.
Sans oublier nos collègues Mélodie et Dino avec la fameuse chronique humanitaire, économique et montréalaise.
Et on commence tout de suite avec...
Pour entendre la suite, rendez-vous tous les vendredis à 11h30 pour 1h30 d'informations et de divertissements.
Le magazine du vendredi, c'est seulement sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Auditeurs de partout, vous qui caressez l'amour au creux de votre cœur, je vous invite à savourer une romance hors du commun à travers l'émission Jasmin de Nuit. Jasmin de Nuit, tous les dimanches de 23h à minuit sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours avec l'émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous avons devant nous toujours cette histoire, triste histoire, d'une mère que malheureusement a perdu la garde de son enfant. Et on va voir dans quelles circonstances a été produite cette perte de garde. Je repars maintenant à la grand-mère qui est devant moi. Et j'aimerais savoir jusqu'à quel âge de 3 ans vous me dites que l'enfant était toujours avec sa mère. Et que le père, d'une façon ou d'une autre, en cherchant à se venger, si vous voulez, le terme est juste, faire des chantages, ce qu'il fait, donc il décroche le téléphone, il appelle, il fait un annoncement...
Je vais préciser.
À la DPJ, donc faire intervenir la DPJ dans le décor, et c'est ça qui a fait troubler un petit peu la situation de départ.
Je vais apporter des précisions. Au moment où l'enfant recevait des services, c'était avec son consentement,
oui,
recommandé par docteur Julien. Donc le père,
il autorisé par la cour, hein.
Oui, autorisé par la cour supérieure. Désigné par la cour supérieure, docteur Julien, et qui suivait l'enfant. Oui. Et l'enfant faisait des progrès considérables.
Et l'enfant, il vit toujours, faut le rappeler, vit toujours avec sa mère.
Oui. Et là, le père, comme il a une sœur qui est pédiatre, il s'est arrangé pour aller obtenir un rendez-vous à la clinique TED de Montreal Children.
Oui.
Et là, il a en quelque sorte happé le dossier à docteur Julien.
Oui.
Il a exigé de lui une référence. C'était pas nécessaire. Il a jamais pensé, docteur Julien, à quoi que ce soit concernant ce petit enfant.
Oui.
À ce moment-là, il y a eu un signalement. Le premier, docteur Julien nous a averti la maman. Il lui a dit, écoute, il y a tellement de troubles, j'ai peur que les services mis en place soient compromis de ce petit enfant. Moi, je dois faire un signalement au DPJ pour nous aider, pour qu'on puisse continuer à donner les services à l'enfant.
Oui.
Et à ce moment-là, ce même jour, il a averti la mère et le père. Comme par hasard, ce même jour, 18 mai, il y a eu deux signalements. Celui du docteur Julien et un autre signalement.
Qu'on ne sait pas de
qui. On ne sait pas de qui.
Probablement du père, vous voulez dire ?
On ne sait pas.
Okay.
Probablement, je ne sais pas. Oui. Donc, le DPJ est rentré un mois plus tard. Elle est rentrée le 13 juin.
Oui.
Quand elle rentre le DPJ, tous les services de stimulation de l'enfant étaient en place. L'enfant, il faisait des progrès considérables. Il avait un encadrement approprié, stable et sécuritaire.
Mais juste une seconde, j'ouvre une petite parenthèse à la mère qui est devant moi. Dans ce temps-là, la mère, il voyait son père de temps en temps, non?
Oui, le père a eu des droits d'accès, donc c'était une garde conjointe au niveau d'autorité parentale, mais il avait des droits d'accès élargis, l'enfant.
Ouais, donc quand il va aller chez son père, il revient chez vous, comment c'était l'attitude de l'enfant?
L'enfant n'avait pas de problème, l'enfant il était à la garderie, les transferts de garde se passaient très bien.
Donc jusqu'à là, il n'y avait aucun problème.
Absolument.
Je reprends avec la grand-mère, oui.
Oui, alors je poursuis avec le DPJ. Donc, ils sont rentrés le 13 juin et le tribunal, il a été saisi sans que la mère le sache, sans qu'il porte à la connaissance de la mère l'évaluation qui a été faite par le DPJ. Donc, le tribunal, il a été saisi immédiatement et le DPJ, elle a pris le problème du mental children pour faire croire que l'enfant était autiste.
Ça, c'est quelque chose qui m'échappe, madame. Je m'excuse de vous interrompre.
Oui, allez-y.
Des gens interviennent dans un dossier, ils sont anonymes. Docteur Julien, c'est un homme en or. Tout le monde connaît monsieur Docteur Julien. C'est un homme en or, cet homme-là.
Oui, oui, oui.
Moi, je souhaite
j'ai beaucoup de respect
des quantités de médecins de la même sorte. Mais la deuxième personne qui est intervenue, et vous ne savez pas qui, et c'est votre enfant.
On ne sait pas qui, et d'autant plus qu'il y avait un jugement de la Cour supérieure.
Oui. Alors,
on devait respecter les recommandations du jugement. Et là, il nous a happé le dossier. Et il s'est arrangé avec l'intervenant du DPJ, parce que moi je dis pas que c'est vraiment tout le DPJ, c'est une affaire d'une personne.
Mais plusieurs personnes aussi, madame.
Donc une personne qui est allée, elle s'est arrangée.
Il y a une complicité.
Donc, je répète, le tribunal de la jeunesse a été saisi avant même que la mère n'eût connaissance du rapport d'évaluation du DPJ qu'elle avait établi le 6 août. Elle s'est présentée avec ce rapport chez le pédopsychiatre. D'ailleurs, c'est noté dans son rapport qu'il a reçu la DPJ d'abord. L'information qui a été diffusée au pédopsychiatre est venue du père seulement et pas de la mère.
Non, du tout, oui.
Le pédopsychiatre n'a vu l'enfant qu'une seule fois. Il pouvait pas se prononcer parce que, bien évidemment, il faut des bilans différentiels, comme on appelle.
Oui, tout à fait.
Maintenant, alors, le 6 août, le 24 août, ils introduisent la requête en protection à la Chambre de la jeunesse. Et le rapport d'évaluation du DPJ, dénué de toute objectivité, nous l'avions reçu après coup seulement. Après l'avoir réclamé, nous l'avions reçu le 28 août seulement, alors qu'on était déjà en procédure. Là, vraiment, il y a une grande irrégularité.
Oui.
Mais malheureusement, on n'a jamais pu faire la preuve, parce que quand on arrive aux audiences, il y a des interdits partout. Oui. À droite, à gauche, quoi qu'on fasse, il y a un interdit.
Je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu l'émission Escargot ou la rue Desjardins, avec le scandale, en définitive, parce que ça prend des complices à la DPJ pour pouvoir faire des escroqueries pareilles.
Ça prend des complicités à tous les niveaux.
Oui. Oui. Mais madame, j'aimerais savoir, une fois vous êtes allée devant la chambre de la jeunesse, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, qu'est-ce qui s'est passé devant la chambre de la jeunesse? C'est-à-dire que le premier jour d'audience, ils ont commencé par changer les droits de garde.
C'est ça que je veux savoir.
C'était ça leur but.
Oui. Donc ils ont demandé le père finalement à l'appui de la DPJ qu'ils ont demandé un changement de garde.
Oui,
c'est ça.
Oui.
La grand-mère. Oui.
Je peux poursuivre.
Oui, oui.
Donc à la chambre de la jeunesse, quand elle s'est présentée la première fois, il y a eu les deux témoins qui sont venus témoigner, et docteur Julien et docteur. Je dis son enfant bonne, il n'est plus en poste.
Ça, c'est docteur Julien, c'est lui qui a suivi l'enfant depuis
l'enfant.
La première.
Docteur Julien, qu'est-ce qu'il dit? Que cet enfant, il est en train de se qu'il commence à parler, il est en train de se normaliser jusqu'à un point parfait.
Excellent, oui.
Ça remonte à 2007.
Et ça, c'est devant le juge.
Ça, c'est devant le juge.
Oui.
L'autre pédopsychiatre a dit, on recommande pour un enfant comme X d'être qui a une interaction sociale et une capacité interactive non négligeable.
Oui.
Donc, c'est important pour lui d'être exposé à des interactions avec des pères normaux, des pères normaux de son âge, parce que on apprend, les enfants apprennent par observation.
Tout à fait, oui.
C'était ça, donc c'était bien parti. Il n'y avait aucune raison d'enlever la garde à la mère.
Voudriez-vous me répéter le nom du médecin? C'est très important.
Le deuxième, docteur Fombon, qui n'est plus en poste.
Attaché à quel hôpital?
À l'hôpital Montreal Children.
Oui. Merci. Mais attends. Non, mais je veux savoir, madame, une fois vous... est-ce que c'est le juge qui a statué comme quoi faire un changement de garde?
Je peux... Alors, c'est le juge, il était de bonne foi, mais l'intervenante, j'ai vu, moi, les notes scénographiques, je les ai lues. L'intervenante, elle dit, monsieur le juge, ma cliente, plutôt l'avocate, elle dit, ma cliente, elle veut une garde partagée, une semaine. Et là, c'est ça qui est quand même terrible au Québec. On a l'impression que les jugements ne sont pas force de loi. Parce qu'une intervenante du DPJ est capable de changer un jugement de la Cour supérieure.
C'est ça le problème.
C'est ça qui est extraordinaire.
C'est ça le problème.
Plus que ça, non seulement qu'il change les droits de garde, et il change le lieu de transfert au quartier du DPJ.
Non mais madame, excusez-moi, comment, à votre avis, elle a pu convaincre justement le juge de faire ce changement de garde?
Ça s'est passé, elle est sortie, elle est revenue. Monsieur le juge, ma cliente n'est pas d'accord. Oui. Et là, de toutes les manières, on savait au départ que sa cliente, elle est rentrée pour changer le jugement de la Cour supérieure. Que ce petit enfant a été pris en otage pour la garde.
Ça veut dire un employé ou une employée de la DPJ, sa parole, elle pèse plus que la parole de n'importe qui ou dans la Cour.
Normalement, ils nous disent, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est une réalité, que très souvent, 99% des décisions du DPJ sont entérinées par les juges.
Voilà, c'est ça. C'est la vérité.
C'est ce qu'on nous dit. Oui. Mais une chose est certaine, le juge était de bonne foi. Oui. Parce que nous avions un dossier clair, la mère n'est pas toxique, n'est pas drôle. Enfin, je n'ai rien contre les personnes qui ont des problèmes.
Oui, oui.
Mais c'est une
mère, c'est pas le cas du tout,
qui s'est investie corps et âme pour son petit enfant.
Une mère exemplaire.
Qui a respecté le jugement de la Cour supérieure.
Oui.
Qui a payé les services de son fils, je peux dire le prix, pour 6 000 $, orthophonie, ergothérapie.
Elle a tout fait, elle a tout investi.
Elle a tout fait, suivi les recommandations du docteur Julien. Elle
pour venir en aide à son fils, oui.
Tout fait, et l'enfant fonctionnait très bien.
Et puis la travailleuse sociale, elle a invoqué comme argument pour le changement des droits de garde que pour que monsieur puisse participer aux soins qui étaient mis en place par la mère, pour laquelle il n'a jamais voulu dépenser un cent. Et je précise que mon ex, c'est un monsieur qui a un gros salaire, il fait 120 000. Par an. Donc, ce n'est pas les moyens qui manquent.
Ce n'est pas lui qui a déboursé la...
Il n'a jamais déboursé un cent. Oui. Donc, la raison pour laquelle ils ont changé les droits de garde, c'est pour que monsieur puisse participer aux soins et accompagner l'enfant chez l'ergothérapeute et l'orthophoniste.
C'est ça la raison principale?
Oui, ça, ce qu'ils ont dit. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand ils ont donné l'enfant à son père en juin 2008 pour une garde finale au père, à ce jour-là, tous les services ont été interrompus. Les services qui étaient mis en place, à savoir l'orthophonie, l'ergothérapie et la psychologie, pour attendre les services, hypothétiques services dans le public qui n'existent pas.
Oui. Mais je veux savoir, madame, peut-être je reviens à la grand-mère. Vous êtes allée trop vite un petit peu pour moi. Comment il a pu avoir la garde à change pour que le père il peut avoir une garde exclusive comme ça? C'est un peu bouleversant, là. Nous avons devant nous un rapport des médecins qui est suivi.
Je vais vous dire.
Oui.
Donc, nous... On avait demandé, on devait faire le suivi des bilans qui étaient recommandés par ce docteur Fombon.
Oui.
On a immédiatement demandé tous les rendez-vous parce qu'ils n'aiment pas les dossiers qui viennent de l'externe. Donc, ils ont dit de l'interne, soit. Quand on demande les rendez-vous et on les obtient, une semaine plus tard, l'intervenante du DPJ était en congé. Elle arrive, elle nous annule tous nos rendez-vous.
Oui.
Et là... Bien évidemment, on avait besoin d'une évaluation psychologique pour l'enfant. Nous sommes allés dans le privé. On a vu avec une psychologue de 30 années d'expérience spécialisée dans l'autisme, parce que pour nous,
personne ne
s'est douté un seul instant que ce petit enfant est autiste.
Oui.
Donc, elle a évalué l'enfant et elle a exclu... exclut tout diagnostic TED ou autisme.
Excusez-moi, il n'a pas payé les soins, mais il a payé quelqu'un pour pouvoir obtenir tout ça.
Voilà.
Je m'excuse, il faut le dire hautement puis fortement.
Ça, moi, je vais terminer.
Oui.
Ce docteur-là, le docteur Fombon, quand il a eu connaissance de l'évaluation psychologique, parce qu'elle parle, qu'elle a vu la dose faite par ce docteur-là, et elle dit non, je ne suis pas d'accord, ce petit enfant, à 2 ans et demi, il conduisait le vélo.
Oui.
C'est était un athlète à la piscine, d'ailleurs s'est démontré dans son... Elle a vu toute l'information au niveau de la garderie, tout, tout, tout. Elle dit qu'il n'est pas autiste. À ce moment-là, ce docteur Fombon, il a fait une lettre à la mère. Il a dit, ce jour-là, je ne me suis pas prononcé sur les explorations. Et maintenant, ne retournez plus vers moi. Allez vers docteur Julien. C'était fini. Leur affaire est arrêtée ici. Fini.
Oui, mais
je continue quelque chose de très important. Oui. Au mois de février, il y a eu une audience. Le DPJ voulait faire signer une entente à la mère pour qu'elle reconnaisse que son fils est autiste, qu'elle ne fasse aucune autre évaluation pour confirmer le diagnostic de son fils et de consentir au droit de garde établi par le DPJ. C'était clair et net. On est venu pour la garde. Et bien évidemment, comme la mère, elle avait le souci de son petit enfant, elle voulait poursuivre les bilans, elle voulait, même s'il le faut, faire une autre évaluation, pourquoi pas, pour confirmer. C'est un devoir de parent.
Oui, mais excuse-moi. Vas-y.
À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté l'évaluation de la psychologue, ils ont dit non probant. Et par la suite...
Moi, la mère, j'avais demandé une évaluation psychosociale parce que le rapport de la travail social était biaisé. À ce moment-là, l'avocat du DPJ l'a dit, on n'a pas besoin d'évaluation psychosociale, mais on accepterait une évaluation psychologique des deux parents. Et moi, j'ai accepté. Et comme j'avais décidé de faire choisir mon propre psychologue, au début, ils étaient d'accord, on était le 20 juin.
Excusez-moi, ils vous reprochent comme quoi vous êtes...
Non, pas du tout. Non. C'est moi qui avais demandé l'évaluation psychosociale pour pouvoir éclaircir le dossier. Parce que
c'est sûr
qu'il y avait beaucoup de mensonges dans le dossier.
Le conjoint aussi, il n'est pas
tout
à fait sur la ligne.
Oui, j'avais demandé. Et la DPJ, ils ont dit, okay, on refuse l'évaluation psychosociale, mais on accepterait une évaluation psychologique des deux parents. Des deux parents. Et...
Vous l'avez accepté, vous
bien êtes, sûr, êtes... sauf que au début, c'était le 20 juin 2008, ils étaient en train de choisir le lieu de transfert de garde, ils voulaient donner une semaine aux parents, et moi je suis sortie, j'ai parlé avec une psychologue qui suivait l'enfant, je lui ai dit écoute, qu'est-ce qu'il me demande? Il m'a dit écoute, Amel, fais très attention, tu as le droit de demander ton propre psychologue. Quand je suis retournée en salle, je l'ai demandé.
Proposé.
Et à ce moment-là, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient m'envoyer chez leur propre psychologue. Oui. Et à ce moment-là, ils ont dit, on donne l'enfant à son père pour 3 mois. Garde exclusive au père.
Excuse-moi, dans le fait d'avoir dit, j'aimerais bien être...
Choisir mon propre psychologue. À ce moment-là, ils ont donné l'enfant à son père pour 3 mois. Et moi, j'ai pu voir mon fils seulement une fois, après 1 mois et demi, 1 heure.
Oui. C'est-à-dire, d'un seul coup, l'enfant, c'est là où il y a la petite...
Vous ne vous étonnez pas pourquoi l'enfant souffre de ne pas voir sa mère.
Oui, mais 3 mois d'un seul coup. Je pense qu'elle a la parole à la grand-mère.
Je peux
dire
continuer.
Chose
le 20 juin, bien évidemment, comme elle a expliqué la maman, donc la décision a été prise parce que elle avait refusé au mois de février de signer l'entente. Parce qu'on ne peut pas signer une entente à vie pour dire que son enfant ne l'est pas. Je ne fais pas d'évaluation. Nous sommes au Québec, un pays industrialisé, avancé. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, ils ont dit, on le confie au père, on enlève... Attends, mesdames, messieurs, les autres de l'auditoire, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'autorité parentale à la mère.
Oui.
Et on met la mère sous visite supervisée. Et mais on confie l'enfant au père. À ce moment-là, quand ils ont confié l'enfant au père, tous les services de l'enfant ont été immédiatement interrompus.
Mais madame, excusez-moi, mettre la mère sur des visites supervisées, mais est-ce qu'elle elle présente un danger pour l'enfant?
J'ai une évaluation du grand pédopsychiatre qui dit la mère n'est pas toxique, la mère n'est pas dangereuse, la mère... Et tout le monde s'étonne, ils ne comprennent pas. Regardez qu'est-ce qu'il dit, le pédopsychiatre.
Ouais. L'enfant doit souffrir de ne pas être avec
sa mère. Oui, se mordre et tout, dès qu'on l'a changé les trois quarts.
Il va présenter
le
problème.
Excusez-moi, Roland.
Il dit, le pédopsychiatre, alors, X manifeste le désir de retrouver sa mère à l'école, qui sera interprété comme des signes d'un attachement insécurisé et désorganisé. D'où l'option de centrer l'action sur le père et sa conjointe. Il dit, aucune approche pertinente mise en place. Séparation majeure d'avec la mère. Visite à durée réduite. Quelle est la raison? Mère non psychotique, non consommatrice de drogue, non associable, non dangereuse, non menaçante. Il dit, à quelques... Okay. Bon, là, il a fait...
Et là, on tombe avec tout ça et on tombe dans la supervisée. Hein,
Dans la supervisée ouais, et couper le contact avec la grand-mère. Parce
ça, c'est un témoignage que vous venez de dire, madame. C'était un rapport parmi les rapports. Et j'avais lu aussi le rapport d'éducatrice qui disait réellement comment l'enfant il se trouvait avoir besoin de cet attachement à sa mère. Donc, on a vu...
Je pourrais vous dire plus que ça.
Ouais.
En 2009, elle avait ce rapport, c'est la travailleuse sociale, où elle dit X est actuellement dans un état de grande détresse.
C'est ça.
Il est anxieux, il a des mots. Il demande très fréquemment sa mère.
Ouais.
Il dit, on s'inquiète grandement. Et les intervenants du DPJ ne se sont jamais préoccupés de l'enfant.
Voilà, mais j'aimerais juste revenir un petit peu, de retransférer peut-être cette image-là, où imaginez-vous, chère auditrice, chère auditeur, l'enfant, hein, l'enfant dans une... j'étais dans la garderie, j'imagine.
Ou encore en garderie.
Dans la garderie, où l'éducatrice le constate en train de... Il s'en va chercher le sac pour aller de sa maman, pour aller chercher le sac de sa maman. Il le serre dans ses bras, il se berce avec le sac, et il appelle maman, maman. Maman. Alors, moi, je suis vraiment dépassé avec tout ça. J'aimerais juste prendre une petite pause musicale et on revient.
Les noms des personnes de la DPJ qui agissent dans ces dossiers.
Moi, je peux le donner.
Voilà, rebonjour, chère auditrice, chère auditeur. J'aimerais bien annuler les pauses musicales parce qu'on a important des choses aussi à dire et le temps, on n'a pas assez de temps. Je reviens à la grand-mère. Vous me disiez quelque chose tantôt qui était vraiment choquante. Comme quoi, oui, vas-y, je vous écoute.
Aussitôt qu'il a été enlevé à sa mère, l'enfant est rentré en crise. Donc, il a développé des comportements perturbateurs.
Mais ça s'explique, oui.
Deuxièmement, il y a eu des signalements de l'ergothérapeute, de la garderie. Rien n'a été fait.
Tout le monde, ils ont dit qu'il faut que l'enfant revienne à sa mère.
Qu'est-ce qu'il fait également? Il coupe tous les services avec l'aval du DPJ.
Oui.
Tous les services mis en place par la mère.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il fait en troisième? Il l'oriente dans une institution de déficient intellectuel sévère.
Autiste
non-verbaux.
Il l'a amené dans une institution enfermée là-bas?
C'est une école où il y a des cas d'autisme très sévères, malgré les recommandations même du docteur Fombon, qui disait que l'enfant doit rester avec des enfants verbaux, qui a fait des recommandations pour la socialisation.
Ouais, normal.
Alors, à ce moment-là, dès qu'il est arrivé dans cette institution, on a été appelé par toutes les personnes ressources, directrices, psychologues, pour nous dire, venez voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont ramené ce petit enfant ici.
Ouais.
Et là, on ne peut pas le garder. Donc, il devait le faire sortir immédiatement.
My God, oui.
Le DPJ est rentré dans le truc pour
le statu quo.
Oui.
Il a fallu que l'enfant reste 2 mois, observé pendant 2 mois, où le psychologue, j'ai tous les rapports où il dit non.
Il faut pas qu'il reste là.
C'est un trouble de langage. Il a besoin de socialiser. On peut pas le laisser avec des non-verbaux.
Et quel âge il avait quand cette fois?
Il avait 4 ans et demi.
4 ans et demi.
4 ans qu'on l'enferme. Donc là, on le sépare du père et du mère et tout le monde là.
Non, il est chez son père, mais à l'école. Pendant la journée, il est allé dans cette école là. Mais le soir, il est chez son père.
Mais il était avec des gens qui n'étaient pas normaux, quoi.
Oui, des autistes sévères avec déficience. Et moi, je l'avais à ce moment-là pendant les week-ends seulement, du vendredi au lundi comme droit d'accès.
Oui, oui. Mais pouvez-vous me dire maintenant à quel moment c'était vraiment complètement coupé là?
Coupé, c'était beaucoup plus...
Coupé, par la suite ils l'ont ramené dans une école de quartier où l'enfant fonctionnait très très bien, il parlait.
Il a repris. Mais est-ce qu'il voyait sa mère aussi?
Les fins de semaine.
Mais l'enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu beaucoup de problèmes physiques, maladies physiques, donc c'était pneumonie, sinusite, abcès dentaire, sur abcès dentaire.
Mais quand il était avec sa mère, il n'y avait pas ça.
Et c'est c'est nous qui le soignons les week-ends. Malgré l'interdiction du DPJ, elle nous disait jamais vous allez soigner l'enfant, appelez le père.
Ils sont arrivés même à me confisquer la carte d'assurance maladie.
De l'enfant.
Oui.
Pour que vous n'arriviez pas à donner des soins à l'enfant.
Ils m'ont dit, si jamais l'enfant tombe malade, vous nous contactez, nous allons dire au père de l'emmener chez le médecin.
Mais le père est négligent, quoi.
Absolument. Il s'est jamais occupé de l'enfant.
Et j'ai devant moi aussi des photos aussi qui montrent.
Il était absolument négligent. Et en plus de ça, moi je vais le dire, parce que l'enfant n'est pas allergique à la pénicilline. Oui. Le père lui donnait du biaxin qui provoque
des psychoses
et des troubles psychiatriques. Oui. Il y a un jugement de la Cour supérieure qui est sorti. Excuse-moi. C'est fou. Oui. Parce que je vous dis, maintenant l'enfant ne parle plus.
Oui.
Et maintenant l'enfant, l'école où il est actuellement, un autre centre, ils sont en train de crier au secours pour venir sortir l'enfant de cet enfer.
Excuse-moi.
Mais le DPJ, elle veut le confier pour la majorité au père.
Excuse-moi. Mais pour revenir, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Alors l'enfant, je l'avais juste les fins de semaine. Oui. En mois de juillet-août 2009, je l'ai eu pendant 6 semaines parce que son père devait s'absenter à l'étranger. Et l'enfant était devenu magnifique. Il a commencé à retrouver son équilibre, il parlait, il était très bien.
Est-ce que les DPJ ont remarqué ça?
Écoutez, l'école, elle a fait des rapports. Oui. La travailleuse sociale de l'école a fait un rapport pour dire que voilà comment l'enfant se comporte. Oui. Mais quand il a repris l'école en septembre 2009, l'enfant, je commençais à le voir les fins de semaine.
Le père, il a repris aussi.
Oui, et puis l'enfant, il a commencé à manifester des signes de détresse.
Oui.
Et l'école, l'école avait appelé la DPJ plusieurs fois pour qu'il vienne voir l'enfant.
Oui.
Il y a eu une rencontre qui a été faite en octobre 2009 avec l'école. Et à ce moment-là, ils ont dit que l'enfant a besoin de plus de contact avec sa mère.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait à DPJ? Ils ont décidé de couper le contact et de médicamenter l'enfant avec le risperdol, un très dangereux psychotrope.
Et à partir de ce jour-là, vous ne voyez pas votre
fils? Ça fait presque deux ans et demi, je vois mon fils 1 heure par semaine. Oui. Et l'enfant, ça, il ne parle plus, il est soumis au risperdol depuis novembre 2009, l'enfant, il a perdu le langage.
C'est quoi l'aveuglement?
Et tout est bloqué.
Oui.
Quand la mère a repris contact avec son enfant, elle n'en revenait pas. C'était plus le même petit enfant.
Oui.
L'enfant, il avait perdu le langage. L'enfant, il était complètement gelé. L'enfant, en tout cas,
ça c'est une histoire vraiment
terrible.
Qu'est-ce
qui s'est passé? Il a mis à ce moment-là à l'école John F. Kennedy
à
Beaconfield, 1 heure de trajet aller-retour. Et pendant cette période, avec le risperdol, l'enfant a développé une hernie inguinale.
Oui.
Et que plus tard, il peut être stérile. Il ne pourra pas avoir d'enfant.
Écoutez, là,
c'est une histoire folle.
C'est une histoire vraiment folle. Vous avez quelques secondes.
DPJ. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous releviez tous les noms de ces personnes-là, personnelles. Parce que je dis qu'il y a eu de la corruption.
Écoutez,
excusez-moi.
J'aimerais bien juste repasser un dernier mot à la mère. Avez-vous quelque chose à envoyer aujourd'hui? Parce que je vois que. Un grand combat. Depuis combien d'années vous.
Ça fait 5 ans que je me bats.
Mon fils a été détruit.
Oui. Ils ont bloqué mon appel pendant 2 ans en cour supérieure.
Oui.
Et maintenant, même je suis retournée à la chambre de la jeunesse, le jugement est arrivé à échéance le 11 juin 2011.
Oui.
Et depuis, on est en statu quo. Ça fait 2 ans qu'il y a un grand pédopsychiatre qui demande de faire l'expertise de l'enfant. Ils ont tout refusé.
Oui. Qu'est-ce que vous disiez aujourd'hui aux mères qui vivent dans la même situation que vous, madame? Rapidement.
Avant de dire, je veux préciser une chose, que je suis à $140,000 de frais d'avocat et je n'ai plus les moyens.
Madame, vous avez un dernier mot à dire rapidement?
Moi, ce que j'ai à dire aux maires et dire au Québec et dire aux citoyens québécois qui a un petit enfant qui est en train de se détruire graduellement et que ce petit enfant, il vient de faire 8 ans, ce petit enfant a perdu le langage, on souhaiterait lui donner la chance de pouvoir devenir un enfant comme tous les enfants du Québec.
Merci madame. Voilà, c'est tout le temps qui nous reste de notre émission. J'aimerais remercier nos deux invités d'avoir accepté avec tant de précision et franchise de dénoncer l'abus de l'autorité et cette forme d'injustice qui se développe de plus en plus dans notre société sans recul. Donc merci à mes collègues Monsieur Cazès Roland et Edgar Robert pour le soutien. Merci aussi à Suzanne Charlon de Radio Centre-Ville d'avoir veillé sur le son de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. À moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain à la même heure. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros, c'est des minables, vous parle en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver.
Ne manquez pas Voyages musicaux, Nuit d'Atong,
Yamgok-Batong,
une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkangner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
La mégastar du reggae africain Tiken Jaffa Coli est de retour à l'Olympia pour Ensorcellement le 17 février prochain. L'illustre artiste ivoirien, engagé, révolutionnaire, résolument tourné vers l'avenir, revient à notre rencontre, partager ses plus grands succès. Un rendez-vous unique, exceptionnel. Soyez parmi les privilégiés. Billets et infos au www.festivalnuitdafrique.com.
Dimensión Cubana, una emisión de la Tabla de Concertación de Solidarité Québec-Cuba, tous les mardis à 21h40.
Entrevues, musique, informations sur la réalité cubaine, tout ce que les médias traditionnels ne vous disent pas, et des invitations aux diverses activités sur Cuba réalisées à Montréal.
À Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
Salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, secousse, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager